Mon histoire des femmes, par Michel Perrault, 18e épisode.
Aujourd'hui, nous allons parler des ouvrières. C'est l'industrialisation qui a posé la question du travail des femmes. La manufacture, l'usine, était pour elles un bouleversement, encore plus que pour leurs compagnons. Comment concilier le travail domestique avec ses longues heures en fabrique? Les ouvriers redoutaient leur concurrence. Cette armée de réserve, comme on disait, ferait, pensaient-ils, inévitablement baisser les salaires. Un homme doit pouvoir nourrir sa femme et ses enfants. Il a besoin d'une ménagère à la maison. Et puis, l'usine et ses machines, sa crasse, ses promiscuités sexuelles, n'étaient pas pour elle. Ouvrière, mot impie, écrit Michelet. Et dans un congrès ouvrier de 1867, un délégué ouvrier déclare « À l'homme, le bois et le métal. À la femme, la famille et les tissus. Le dur et ses façonnements pour les hommes, le mou pour les femmes. » Le textile a été, en effet, le grand secteur d'emploi des femmes, en usine et en atelier. Elles sont entrées en masse dans les filatures et les tissages de la première révolution industrielle, à Manchester, Krefeld, à Roubaix, à Mulhouse, partout. À Mulhouse, en 1838, le docteur Villermé voit leur triste cortège à l'entrée des fabriques. Parfois, elles sont escortées de leurs enfants. Des traits identiques caractérisent leur travail usinier. D'abord, il est temporaire. Les ouvrières ne passent pas toute leur vie à l'usine. Elles y entrent jeunes, voire très jeunes, dès 12-13 ans, y restent jusqu'à leur mariage, voire plus tôt, à la naissance de leur premier enfant, quitte à y revenir plus tard, quand les enfants sont élevés et ont besoin avec eux. C'est donc un travail cyclique, au cours de la vie, sans perspective de carrière ni de retraite qui, de toute façon, n'existait pas à cette époque. La jeunesse des ouvrières éclate sur les cartes postales de sortie d'usine. C'est très beau, ces cartes postales de sortie d'usine, et ça a été un des premiers usages de la carte postale, de la photographie de la part des ouvriers. On les voit toutes jeunes, elles se mettent sur leur 31 en général, elles ont un grand air de jeunesse. En second lieu, ce travail usinier, c'est un travail peu qualifié, monotone, réduit à des gestes simples et répétitifs, mais dont les cadences deviennent de plus en plus accélérées. On passe de la surveillance de un à deux, puis plusieurs métiers. Les machines sont mal protégées, à l'air libre. Les accidents, les doigts, les mains coupées sont fréquents. Les journées sont très longues, jusqu'à 14 heures dans les débuts de l'industrialisation, autour de 1900, 10 heures, ça a déjà un peu réduit. Il y a peu de pauses, les locaux sont inconfortables, mal aérés, mal chauffés ou alors surchauffés, sans espace de renvoi, il n'y a pas de réfectoire, les ouvrières mangent leurs gamelles sur place entre les métiers graisseux, il n'y a pas de vestiaire. Aller aux toilettes est un problème. Les ouvrières sont toujours soupçonnées d'y fumer une cigarette, de bavarder, d'y perdre leur temps. La discipline est sévère. Les amendes pour retard, absence ou malfaçon sont fréquentes, réduisant encore les salaires. Et c'est aussi, et ça c'est très caractéristique du travail féminin, un travail subordonné. Contremaître et contrôleur sont des hommes, qui se croient d'ailleurs tout permis avec ces jeunesses. Le harcèlement sexuel fait partie des motifs de grève. Les grèves sont nombreuses dans le textile, mais les ouvrières les suivent plus qu'elles ne les mènent. Elles sont peu ou pas syndiquées, et d'ailleurs, on ne les y incite pas tellement. Excepté dans les usines de soie du sud-est de la France, ces internats couvents dont j'ai parlé en parlant des paysannes, dont les jeunes femmes supportent de plus en plus mal la clôture. Et là, il y a des grèves. On voit des grandes grèves au début du XXe siècle, des grèves uniquement de femmes, avec de belles figures de meneuses, comme on disait à l'époque, telle une certaine Lucie Beau, qui fait rare à laisser une petite autobiographie racontant sa vie en usine. À cause de ça, on sait pas mal de choses sur ces usines du textile, de soie. Les femmes sont nombreuses aussi dans les industries alimentaires et chimiques. Les manufactures de tabac sont très recherchées en raison du statut qui est garanti par l'État. Et alors, ça donne une certaine sécurité sociale et déjà à l'époque des retraites, ce qui est très rare. Les femmes, là, font de véritables carrières et même elles s'y recrutent de mère en fille. Elles ont, là, un taux de syndicalisation exceptionnel. Par contre, les femmes sont rares dans la métallurgie, dans la construction mécanique, qui sont des métiers plus qualifiés et virils. Dans l'imprimerie, les ouvriers s'opposent même à leur introduction, considérée comme dévalorisante. Les métiers du livre sont nobles, donc masculins. La Première Guerre mondiale change les choses. En France et en Angleterre, les femmes remplacent à l'arrière les hommes mobilisés au front. L'arrivée massive des celles qu'on appelle les munitionnettes, c'est-à-dire celles qui fabriquent les munitions, il y en a quand même 300 000 en France et à peu près autant en Grande-Bretagne, oblige les usines d'ailleurs à accélérer la division du travail et à repenser l'espace de l'usine. Par exemple, on fait des chambres d'allaitement, de façon à ce que les mères qui ont de jeunes bébés puissent venir travailler. Vraiment, on a besoin d'elles. Et on introduit des surintendantes d'usine, qui vont d'ailleurs continuer après la Première Guerre mondiale, et leur rapport constitue un très précieux témoignage sur les femmes en usine. Annie Fourcault a fait un livre sous ce titre à partir de leurs textes. Au fond, l'entrée dans les usines de construction mécanique et métallurgique est un processus irréversible. Ça se poursuit entre les deux guerres, dans les usines automobiles taylorisées et sur les chaînes de montage qui sont introduites chez Citroën en 1820. Du coup, les ouvrières se banalisent. Elles poursuivent des carrières plus longues, à peine interrompues par les congés de maternité que la législation commence tout de même à protéger. C'est là qu'en 1936, en France, elles vivent le Front populaire. On les voit nombreuses dans les manifestations avec leurs cheveux courts. Les cheveux sont coupés à cette époque. Elles participent aux occupations d'usines, s'occupent des cantines et dansent dans les bals. Quelques-unes, mais elles sont rares, s'enhardissent jusqu'à prendre la parole et il y a des photos qui nous les montrent haranguant leurs camarades. Après la Seconde Guerre, de nouvelles industries, électromécaniques ou électroniques, absorbent une main-d'œuvre féminine qui est issue d'un enseignement professionnel complètement désadapté. Ainsi, Moulinex, dont le fameux « presse-purée libère la femme » selon la publicité de l'époque, on est dans les années 1960, développe ses usines en Basse-Normandie. Quand les usines ferment, 30 ans plus tard, c'est le drame pour ces ouvrières qui n'ont pas d'autres qualifications. Franck Magloire a aidé sa mère à raconter son histoire dans un livre paru en 2003 aux éditions de l'Aube qui s'appelle « Ouvrières ». Rare témoignage sur la vie de travail, les espoirs et les déceptions des femmes de cette génération des années 1950-1980. Est-ce que c'est la fin des ouvrières? Sûrement pas à l'échelle du monde. Mais dans nos pays, ce n'est plus, en tout cas, l'avenir des filles du peuple. Dans les années 1950, les jeunes filles étaient encore nombreuses à préparer dans l'enseignement professionnel un CAP de couture floue. C'était comme ça que c'était nommé. Ce CAP ne leur servait à rien, sinon à développer une habileté manuelle très prisée dans les usines de montage électronique dont je viens de parler. On vantait leur doigté, comme si c'était une aptitude naturelle. Les fameuses qualités innées des femmes recouvrent en fait la plupart du temps des qualifications acquises qui sont le résultat d'apprentissages patients et peu formalisés. C'est d'ailleurs une des clés de la déqualification féminine. En fait, ce qu'on appelle la déqualification féminine, ce sont souvent des qualifications non reconnus. Par exemple, les premières dactylos, on dira que le piano les avait prédisposés au clavier de la machine à écrire. C'était d'ailleurs souvent un prétexte pour moins les payer. Alors la couture, dont je voudrais vous parler maintenant, a été un immense vivier d'emplois, de métiers, de qualifications pour les femmes. Et cela durant des siècles. Là, je reviens un petit peu sur les siècles passés. Tout ça, c'est lié à l'importance du vêtement et du linge dans notre culture et à ce stade du développement des sociétés occidentales. Le luxe à la cour du XVIIe siècle, par exemple, et à la ville, c'est d'abord celui de la dentelle, de la soie et de la passementerie. La première révolution industrielle, c'est celle du textile. Le XIXe siècle est le grand siècle du linge, de la lingerie et des dessous féminins, de la mode. Alors, dans leur sillage, se développent toutes sortes de métiers. Lingères, chemisières, passementières, corsetières, fleuristes plumassières, modistes, brodeuses, avec des dizaines de spécialités différentes. Sans compter tout le secteur d'entretien du linge avec les blanchisseuses, les repasseuses, en gros, en fin, etc., etc. Des milliers d'emplois. Peut-être, dans le Paris de 1900, les trois quarts des emplois féminins. Chaque ville avait d'ailleurs son atelier de couture, chaque bourgade a sa couturière, et la couturière est une personne importante, confidente des femmes, médiatrice entre la capitale et la province, où les modes de Paris font la loi. Je me souviens, il y a 20 ans peut-être, avoir vu en bordure du Sahara, au Maroc, à Ouarzazate, une boutique à l'enseigne de « Au bonheur des dames ». Elles sont nées avec une aiguille entre les doigts. En réalité, elles ont tout appris la couture, auprès de leur mère, dans les ouvroirs des religieuses, auprès d'une couturière. Quand elles sont habiles, après un apprentissage en province, elles viennent s'embaucher à Paris et de maison en maison améliorent leur position jusqu'à espérer rentrer comme première dans la grande couture, la haute couture parisienne. Les frères Bonnet ont décrit la dure condition des ouvrières de la couture parisienne. J'ai bien connu Roger Convard, fils d'une fleuriste plumassière, qui a reconstitué la vie de sa mère. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui. Jeanne Bouvier, Marguerite Audoux, dans l'atelier de Marie-Claire, ont raconté leur itinéraire. Voici, pour une fois, un travail féminin bien documenté. Ce qui n'empêche pas des représentations contradictoires, oscillant entre misérabilisme et idéalisation des grisettes, des midinettes et autres cousettes. Au passage, je voudrais vous signaler que midinette, cela veut dire l'ouvrière qui fait une dinette à midi, donc qui ne mange très rapidement. Vous voyez, midinette, l'ouvrière des ateliers de la haute couture. Eh bien, suivons Marguerite Audoux, dans l'atelier de Marie-Claire, le sien, qu'elle nous décrit dans un roman paru en 1920. C'est un atelier familial, non loin de Montparnasse, dirigé par un couple de brodeurs. Les ouvrières sont jeunes, venues de toutes les provinces. Elles habitent de petites chambres sous les combles, font souvent un second métier. ont des vies matérielles et sentimentales difficiles, mais assez libres. Beaucoup de naissances non désirées parmi elles. À l'atelier, les mortes saisons, l'été, alternent avec des périodes de presse, automne et hiver. À ce moment-là, pour satisfaire les commandes des maisons et les caprices des clientes qui sont extrêmement capricieuses à travers le roman, il faut faire des veillées. Et ces veillées durent parfois toute la nuit. Il arrive qu'on couche à l'atelier, alors on boit du café, beaucoup de café. Pourtant, la vie d'atelier est assez gaie. Les ouvrières ont conscience de faire un beau métier. Elles aiment bien ce qu'elles font en général. Elles se racontent leurs aventures, elles chantent. Il y a beaucoup de chansons transcrites dans le roman de Marguerite Audoux. Mais l'atelier se mécanise pour répondre au rendement. Et dans le roman, après la mort de son mari, le patron, sa veuve ne parvient pas à soutenir le rythme et la concurrence des grandes maisons de confection. En effet, celles-ci font appel directement au travail à domicile des ouvrières isolées et bientôt l'atelier ferme. Et c'est la fin de cet atelier que nous raconte avec pas mal de nostalgie Marguerite Audoux. En effet, les grandes maisons de confection font directement appel au travail à domicile des ouvrières isolées. Celles-ci achètent à crédit des machines Singer, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, et cousent des fractions de chemises ou d'autres vêtements que chaque semaine elles rapportent à l'atelier d'assemblage. Et on les voit dans l'omnibus le matin finir en hâte leur livraison. Les journées du sweating system, le système des sueurs, sont sans limite. Sédentaires, les ouvrières se nourrissent mal. Ce qu'on appelle la côtelette de la couturière, c'est un morceau de fromage de brie. C'est comme ça qu'on appelait la côtelette de la couturière. La tuberculose les décime, les médecins s'en inquiètent, les féministes aussi. Elles vont créer un office féminin du travail à domicile. Il y aura des lois et le travail à domicile va disparaître dans l'entre-deux-guerres. Les usines de guerre, évidemment, vont offrir d'autres possibilités. Le travail à domicile n'a plus la cote, il ne s'en relèvera plus. Les couturières non plus, pour le meilleur et pour le pire. Elles deviennent des ouvrières à part entière ou bien des dactylos. Et ce sont ces dactylos que nous retrouverons demain.
Histoire des femmes par Michel Perrault. Réalisation Pierrette Perrenot.